Frères et sœurs, nous allons parler aujourd'hui de ne pas juger. On l'a lu tout à l'heure. De juger de rien. Avant le temps. Parce qu'on est incapable de savoir vraiment ce que sont les gens. Un tel nous paraît bien et c'est un homme corrompu. Un tel nous paraît plutôt bancal et c'est un homme droit. Ne juger de rien. Il y a une histoire de la Bible qui est quand même magnifique, mais elle n'est pas toujours expliquée pendant les cultes. C'est dans le prophète Jérémie. Le prophète Jérémie, on ne lit pas souvent dans Jérémie, pourtant c'est un prophète magnifique, au chapitre 24, un prophète qui a beaucoup souffert puisque il a vu la décadence comme nous. Et puis il a vu la destruction, l'incendie de Jérusalem. C'est grave, hein ? On n'y aurait jamais cru. Que cette ville de Dieu, ce temple de Dieu, aurait été brûlée par des gens sans foi ni loi. Comme quoi, si on ne construit pas bien, tout est fragile. On n'est pas sûr du lendemain. L'Église, parfois qui chantait, dansait, criait, elle a connu des effondrements dans l'histoire. Aujourd'hui, elle est là, mais gardons-nous de faire le fanfaron. L'Église, notre vie, ma foi, parlons tout simplement, la foi ne tient que dans une relation avec Dieu vraie, authentique, avec tous les secrets, les fibres de notre cœur. Écoutez, nous allons lire Jérémie 24. L'Éternel me fit voir, au verset premier, l'Éternel me fit voir deux paniers de figues posés devant le temple de l'Éternel, après que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, eut emmené de Jérusalem et conduit à Babylone Jéconia, le roi, fils de Joachim, qui lui était déjà parti avant, roi de Juda, les chefs de Juda, les charpentiers, les serruriers, sont tous partis en déportation. L'un des paniers contenait de très bonnes figues, comme les figues de la première récolte, et l'autre panier de très mauvaises figues qu'on ne pouvait manger à cause de leur mauvaise qualité. Des figues pourries, c'est ça que ça veut dire. L'Éternel me dit, que vois-tu, Jérémie ? Je répondis, des figues. Les bonnes figues sont très bonnes et les mauvaises figues sont très mauvaises et ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. Vous aimez les figues, au fait, je ne vous ai pas demandé. Vous aimez les figues ? La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Comme tu distingues ces bonnes figues, ainsi je distinguerai pour leur être favorable les captifs de Juda que j'ai envoyés de ce lieu dans le pays des Chaldéens. Je les regarderai d'un œil favorable et je les ramènerai dans ce pays, je les établirai et ne les détruirai plus. Je les planterai et je ne les arracherai plus. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Et comme les mauvaises figues qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité, dit l'Éternel, ainsi ferai-je devenir Sédécias, roi de Juda, ses chefs et le reste de Jérusalem, ceux qui sont restés dans ce pays et ceux qui habitent dans le pays d'Égypte. Nous expliquons maintenant la parole de Dieu. Amen. Que chacun prenne garde à lui-même. Ne nous reposons pas sur des apparences. Dieu seul sonde nos cœurs. Et les enfants de Dieu d'Israël, de ces temps-là, il y a 27 siècles, ça danse et ça chante. C'était beau. Et ils avaient le temple avec eux. Mais Dieu leur dit, faites attention à vous. Parce que Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. Vous dites amen, mais c'est pour vous et c'est pour chacun de nous et c'est pour moi. Oui, Dieu regarde au cœur. Et Dieu, devant la saleté de la vie morale de ce peuple à cette époque, il leur a envoyé des adversités. Il leur a envoyé des sangliers dans leur champ, je veux dire des adversaires qui ont cassé tout. À cette époque-là, le temple n'est pas encore démoli. Jérusalem n'est pas encore en feu. Car je le rappelle, parce qu'ils ont mal fait, ils avaient un esprit tordu, Jérusalem, à cause de ça, a brûlé. Tout a brûlé. À cette époque, le temple est toujours là, mais le roi de Babylone, on appelle aussi Nabucodonosor, Nabuchodonosor, bon, il est arrivé à Jérusalem, il a emmené en esclavage, en captivité, en déportation, tous les chefs, les gens solides, tous les hommes vaillants, ceux qui peuvent lutter, résister. Il emmenait tous les charpentiers, tous les serruriers. Et puis en plus, il a emmené tous les trésors de la maison de l'Éternel, toutes les coupes, tous les plats en or, tout ça, le roi Nebuchadnezzar, bandit célèbre, mais que Dieu a permis, il a tout emmené. Il a même emmené le roi Jojaquin, on appelle aussi Jéconia, avec sa mère, la fin du monde. Il n'y avait à cette époque à Jérusalem plus de chefs pour réfléchir, plus d'hommes vaillants pour défendre les autres, plus de serruriers pour protéger, plus de charpentiers. Ce qui veut dire qu'il n'y avait plus à Jérusalem de gens capables pour tenir le peuple. On a besoin dans l'Église, mes amis, de gens qui donnent une sécurité. Un charpentier, quand ça met des poutres sur le toit des gens, c'est une sécurité. Un serrurier, quand ça installe une bonne serrure, trois points, c'est une sécurité. Et l'Église a besoin de gens qui apportent, pas des querelles, pas des méchancetés, mais de la sécurité. Pas de la folie, de la sécurité, de la paix, de l'intelligence, de l'équilibre. L'Église a besoin de gens qui savent rassurer par leur présence, des gens qui savent ouvrir l'esprit des gens et qui savent fermer la porte au mal, qui ne laissent pas le mal s'infiltrer dans la maison, dans nos pensées, mais qui ferme la porte. Tous ces bons ouvriers sont partis. Regardez comme c'est terrible. Alors il en restait quand même à Jérusalem des gens. Vous savez ce qu'ils pensaient, les gens? Ils se disaient, les meilleurs c'est nous. Ceux qui sont partis en déportation, ils avaient peut-être des péchés sur la conscience. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour partir en déportation? Ils les accusaient. Mais les meilleurs, c'est nous qui restons et nous qui sommes au soleil. Et certains allaient en Égypte pour être bien tranquilles. Certains fuyaient même le culte. Hein. Ils étaient tranquilles chez eux avec une bonne conscience. Bon. Et Dieu dit, ne croyez pas que ceux qui sont partis sont plus pécheurs que vous. C'est le contraire, justement. C'est le contraire. Ceux qui sont partis, eh bien, ils sont comme les bonnes figues. Je fais la différence, dit le Seigneur. Parce que nous, on ne sait pas faire la différence entre les bonnes figues et les mauvaises. Je veux dire, entre les bons et les méchants, les vrais et les tordus. Dieu fait la différence. Mais dans l'Église, on n'est pas capable, nous. Ne jugez de rien. Ne jugez pas vos frères et vos sœurs. Mais c'est vrai que dans l'Église, il y a deux chemins. Il y a ceux qui construisent des maisons solides sur le roc et ceux qui construisent sur du sable. Et ceux qui prient, ceux qui ne prient pas. En Israël, c'était ça. Hein. Il y avait de l'infidélité, il y avait des tromperies, il y avait des idolâtries. Mais il y avait quand même aussi des gens qui avaient la crainte de Dieu. Et ceux qui sont partis, dit le Seigneur, eh bien, ces gens-là, je vais leur ouvrir le cœur, je leur parlerai, je les ramènerai, je les bénirai, je les consolerai. Mais vous qui êtes ici restés, attention à vous. Les meilleurs sont ceux qui sont partis. L'apôtre Paul, il écrit à Timothée en disant, « Sache que dans les derniers temps, et je crois que nous sommes dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Les gens seront remplis d'orgueil, calomniateurs, mais ils ne feront pas de grands progrès. Leur folie finira par être manifeste pour tous. Mais toi, dit l'apôtre, comme s'il y avait deux chemins dans l'Église. Dans la vie, il y a toujours deux chemins. Il y a les bonnes figues et les mauvaises figues. Mais toi, dit le Seigneur à Timothée, mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Dans l'histoire de la Bible, j'ai toujours remarqué qu'il y a des choses difficiles dans l'histoire humaine, mais il y a toujours un reste. Si vous lisez bien les prophètes, il y a un reste qui veut dire qu'il y a malgré tout des gens qui ressemblent à un tronc d'arbre qui est prêt à reverdir. Il y a un reste dans le peuple d'Israël. Mais enfin, c'était quand même attristant, c'était décevant de voir ces gens qui partaient en des milliers qui partaient en captivité et qui nous emmenaient les plus habiles, l'élite du pays. Ils partaient en exil pendant longtemps, 70 ans. Et les mauvais sont restés chez eux. C'est un message quand même difficile à comprendre quand même. Hein. Mais Dieu ne confond pas. Dieu ne dit pas, à ma droite ce sont les mauvais, à ma gauche ce sont les bons. Ce n'est pas encore le moment. Pour l'instant, il ne confond pas. Et il nous appelle, il connaît ses brebis. Et tant que le temps est là, pendant que c'est, on peut dire aujourd'hui, Dieu veut nous changer, nous transformer. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps. Amen. Il faut apprendre dans l'Église à contrôler ses émotions, ses sentiments, ses pensées, ses paroles, ses réactions. Il faut apprendre à se contrôler. Je vois une église de l'Apocalypse qui s'appelle Laodicée. Laodicée, vous n'y aurez peut-être pas mis les pieds, parce que Laodicée, c'était la tiédeur. Les gens étaient tièdes, orgueilleux, ils ne connaissaient pas leurs besoins, ils disaient « je n'ai besoin de rien, j'ai tout ce qu'il me faut », alors qu'ils étaient pauvres, aveugles, nus. Et le Seigneur n'a pas dit « Laodicée, je n'en veux pas ». J'abandonne l'Église. Laodicée, ils sont tous bons à mettre pour le jugement dernier. À Laodicée, qui est une Église pas facile, Dieu dit à cette Église, « Je te conseille d'acheter un collyre pour le mettre sur tes yeux, afin que tu vois ce que tu es. Si quelqu'un entend ma voix, dit le Seigneur à Laodicée, si quelqu'un entend ma voix, car je frappe à la porte, s'il m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui à Laodicée. Et à Laodicée, qui est une église quand même bizarre, le Seigneur dit, à celui qui vaincra, le Seigneur a de l'espoir, le Seigneur a confiance, le Seigneur va agir, va travailler. Par conséquent, il ne faut pas critiquer Laodicée, il y a des bons. Il ne faut pas critiquer ceux qui s'en vont en captivité, il y a des bons parmi eux. Il ne faut pas critiquer. Nous ne sommes pas encore arrivés au jugement dernier. À ceux qui partent là en captivité, le Seigneur dit, ils seront mon peuple s'ils reviennent de tout leur cœur. Dieu leur promet de leur donner un cœur pour connaître Dieu. Et moi, mon message d'aujourd'hui, vous allez voir la grande conclusion. Ne jugez de rien avant le temps. Ne jugez pas les gens du dehors. Ne jugez pas les gens de l'Église, ni le pasteur ou les pasteurs. Dieu connaît les bonnes figues et les mauvaises figues. Et Dieu peut changer. Je leur donnerai un cœur. Seigneur, celui-là, il ne vaut rien, il ne pourra jamais se convertir. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils me connaissent. Seigneur, ceux-là, ils sont dans une église de tradition, ils jamais s'en sortiront. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils me connaissent. Oh, ceux-là, ils ont des pensées très impures, très mauvaises. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils me connaissent. Amen. Dieu nous aide à avancer. Aujourd'hui, on est comme ça, demain, on va changer. Il nous aide à avancer dans la croissance avec du temps. Nous serons changés par le Seigneur. Moi, je vous dis, je crois personnellement très fort qu'il nous faut une conversion continuelle. Je crois que à un moment donné, j'ai dit, ah, le Seigneur, oui, je le découvre. Mais ma conversion, je la vis chaque jour. Conversion permanente. Parce que chaque jour, c'est pourquoi il ne faut pas juger les gens. On est tous en cours de route. Chaque jour, on se construit, on s'améliore, on fait des progrès par des choix, par des décisions. Je n'irai plus faire ça, je ne fréquenterai plus un tel, je ferai attention, on prend des décisions. On se sanctifie. Le Seigneur dit que celui qui est saint se sanctifie encore. La conversion, c'est permanent. Parce que, écoutez, vous me l'avez dit, et c'est parfois un fardeau quand dans une église on prêche qu'il faut être parfait, que tout le monde soit heureux, souriez tous. Ce n'est pas le cas. Je ne peux pas sourire aujourd'hui, je ne peux pas sourire demain. On n'est pas tous au même niveau. Il est impossible de faire le bien d'un seul coup. Il est impossible d'être un chrétien parfait d'un seul coup. Mais la pédagogie de Dieu, la méthode de Dieu, c'est de nous faire grandir par étapes, à petits pas, pas à pas, comme le grain de blé. Tout doucement. Et les chrétiens très spirituels qui disent « Mais pourquoi Dieu ne fait pas le grain de blé en un seul coup ?» Du pain qui sort de la terre. Ça, c'est spirituel. Hein. Seigneur, pourquoi tu prends des semaines et des semaines pour que le blé pousse ? Pourquoi tu ne fais pas sortir le pain directement de la terre pour qu'il arrive dans nos assiettes ? Vous êtes trop spirituel. Le Seigneur, il va petit à petit. C'est le Dieu des petits pas. Il ne nous transforme pas en un instant afin qu'on vive la transformation. Des gens sont parfois très, très durs d'oreille dans ce domaine-là. Combien de gens m'ont dit « Ah, je voudrais me réveiller un matin parfaite. » Non, non, non. Le Seigneur va nous transformer pour qu'on vive la transformation, pour qu'on y travaille, pour qu'on prie pour la transformation, pour qu'on apprécie la beauté, la bonté du Seigneur qui nous travaille comme la pâte, comme le potier travaille son vase. Le Seigneur nous amène à travailler à notre salut, à apprendre notre salut, à comprendre notre salut. Il nous appelle à savoir recommencer. C'est pourquoi on est tous en cours de route, on n'est pas encore arrivé. Alors ne jugez pas. C'est comme s'il y avait deux fœtus, là, il y en a un qui dit à l'autre, « Oh, t'es un petit minus, t'as que 3 mois de fœtus, moi j'en ai presque 9 ». On est en cours de route, plus ou moins avancé. Ne critiquons pas ceux qui sont encore en transformation. C'était le chemin d'Israël. Dans le désert, ils allaient par étapes. Les apôtres aussi allaient par étapes. Ils n'ont pas fait tout bien d'un coup. L'apôtre Pierre a commis des erreurs. Et puis Jean et Thomas et les autres. Mais le Seigneur leur a appris à apprendre ce que c'est que la vie en Christ. À petits pas, on grandit. C'est la croissance personnelle d'éclat en éclat, de progrès en progrès, vers Jésus, avec Jésus. C'est vrai dans l'Église, on est tous différents. On peut pas, j'ai pas le droit de vous dire « soyez comme moi » ou « soyez comme le frère un tel là-bas ». Non, il faut aller avec son rythme, avec sa propre croissance. L'apôtre Paul, il disait aux Philippiens, « Je n'ai pas atteint la perfection. » Critiquez-le, Paul. « Je n'ai pas atteint la perfection. » Mais je cours vers le but pour remporter le prix. L'apôtre Pierre, quand Jésus lui a dit, « Quand tu seras converti, c'était à la fin, hein, c'était quelques heures avant que Jésus meure sur la croix. Et Jésus a dit à l'apôtre Pierre, quand même un de ses meilleurs apôtres, « Quand tu seras converti, affermis tes frères. » Mais l'apôtre Pierre aurait pu dire, « Mais Seigneur, écoute, je suis converti. Inspiré par le Saint-Esprit, j'ai même dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre, écoute-moi, quand tu seras converti, on a parfois des inspirations peut-être, mais la conversion doit toucher beaucoup plus que ça. Quand tu seras converti, Dieu nous appelle à ne pas nous juger, à ne pas nous décourager. Il nous appelle à continuer la construction de la vie. Il nous appelle à faire des efforts sans nous décourager quand nos chemins bloquent. Il nous apprend à faire confiance à Dieu qui, lui, nous donne des progrès. Il faut qu'il y ait une collaboration entre nos efforts et la grâce de Dieu. Il faut les deux. Je ne suis pas toujours d'accord avec plein de pensées que vous dites, comme des paroles que j'entends. On a tout par grâce, oui, mais on travaille aussi. Faites tous vos efforts pour. Il faut qu'il y ait une collaboration entre la grâce qui nous donne la vie et nous qui prenons la vie. Il faut apprendre à recommencer sans avoir honte, sans avoir peur. Il faut apprendre à se tromper sans abandonner la route. Oh, j'ai fait une erreur, qu'est-ce qu'on va dire? Je suis perdu. Il faut apprendre à se tromper sans abandonner le Seigneur. Il faut apprendre à chercher sans trouver. Je ne comprends pas, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Tu as besoin d'apprendre la patience, tu as besoin d'apprendre la persévérance, tu as besoin d'apprendre la prière et le temps où on ne perd jamais son temps, parce que Dieu travaille. Il faut apprendre à douter de nous. Il faut apprendre à se remettre en question. Il ne faut pas se réveiller le matin en disant « Je suis parfait, alléluia ». Dieu est en train de nous travailler. Hein, ils ont critiqué les déportés qui partaient dans l'exil. Là, sont des mauvais. Dieu dit « Non, je suis en train de les transformer ». C'est la loi du royaume de Dieu. C'est la pédagogie de Dieu. Des progrès lents. on va de mieux en mieux. Amen. Ce qui nous permet de comprendre certaines situations familiales difficiles qui ne peuvent pas se régler d'un coup. Bien sûr, si quelqu'un tabasse sa femme, il faut qu'il arrête d'un coup. Bien sûr. Mais il y a des situations familiales difficiles où ça ne se règle pas en un instant. Donc il ne faut pas les juger, il ne faut pas les démolir, il ne faut pas les critiquer. Il faut comprendre qu'il faut du temps. Alors écoutez, frères et sœurs, je vais terminer. Qui peut savoir où sont les bonnes figues et les mauvaises figues? Qui peut savoir où est le bon grain et le mauvais grain? Les apôtres ont dit, tu veux qu'on arrache le mauvais grain? Chut, laissez. Laissez jusqu'à la moisson. Ce n'est pas à nous de dire un tel, il faut le supprimer, un tel, il faut l'éliminer. Le Seigneur est en train de nous travailler tous. Amen. Il faut apprendre à ne pas juger ceux qui vont partir en déportation, là, dans le mal, les difficultés, les souffrances. Il faut apprendre à ne pas les juger, ni à juger ceux qui sont bien, où tout leur sourit. On a l'impression que la bénédiction est sur eux. Ce n'est pas parce que nous sommes bien que nous sommes bénis par le Seigneur. Ce n'est pas parce que tout nous réussit que c'est la bénédiction de Dieu. Pour moi, la bénédiction de Dieu, c'est une bénédiction intérieure. C'est la transformation de nos pensées, de nos paroles, de nos sentiments. Puis ne jugez pas ce roi d'Israël, ce roi de Juda, qui est parti en déportation, Jojakin. On l'appelait aussi Jéconia, et sa mère l'appelait Konia. Il ne faut pas le juger, cet homme, il avait 26 ans, son père était épouvantable. Vous savez, quand on a une famille parfois terrible, on hérite parfois. Hein. On hérite, et son père est parti en déportation, il a eu les yeux crevés, on l'a tué. Alors le fils, évidemment, il n'a pas appris les bonnes méthodes, les bonnes manières. Jojakin, roi, 18 ans. Personne ne pourrait élire un président en France qui aurait 18 ans. Roi de Jérusalem. Il part en déportation avec sa maman à 26 ans. Il est beau, il est jeune. Et vous savez, il va rester 37 ans en prison, en déportation. Beaucoup sont partis, puis ils ont quand même cultivé, ils ont fait des affaires, ils n'étaient pas dans un camp de concentration, mais lui, oui, il a été 37 ans en prison jusqu'à ses 63 ans. Alors on a envie de critiquer, mais écoutez la suite. Ne jugez de rien, ne jetez la pierre à personne. Le roi de Babylone, il a ouvert les portes de la prison, il a dit, Jojakin, je te libère. Et maintenant, tu vas manger à ma table tous les jours et tu seras nourri, logé, heureux dans la déportation. Jojakin, tu mangeras face à moi tous les jours de ta vie jusqu'à ta mort. Grâce de Dieu. Où sont les bonnes figues? Où sont les mauvaises figues? Je ne me fie pas au Amen, je ne me fie pas au Alléluia, je ne me fie à rien. Je dis, Seigneur, tu connais les cœurs, mais si même parfois je vois des choses qui ne sont pas très bien, je dis, Seigneur, toi, tu peux changer les cœurs. Nous sommes en cours de route. Aujourd'hui, il a un peu boité, mais demain, il marchera droit. Aujourd'hui, elle a un peu parlé trop vite et mal, demain, elle rectifiera sa parole. Le Seigneur, il travaille là. Amen. Il travaille. On ne juge pas. Je cite pour terminer cette parole de Paul aux Corinthiens, « Ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. » Avant ce jour-là, mettez tout en règle. Mais pour l'instant, on ne juge personne jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui montrera ce qui était caché dans le fond des cœurs. Écoutez, j'ai envie de vous dire un mot. Encourageons-nous. Vous voulez bien ? Encourageons-nous. N'enfonçons personne. Et que personne ne se sente diminué, mal aimé, pas comme les autres. Vous savez, un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui marche sur les hauteurs du pays, qui est au top jour et nuit. C'est quelqu'un qui vit, qui marche avec Dieu à la sueur de son front. Et il faut respecter ceux qui peut-être n'ont jamais vu dans leur vie de grands miracles, mais qui sont fidèles jusqu'au bout. Amen. Il faut les aimer, il faut les respecter. Il faut qu'on sache regarder plus loin que les apparences. Il faut qu'on soit des chrétiens. Voilà. Des chrétiens. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je prie le Seigneur pour vous et priez pour moi aussi. Seigneur, nous te prions de nous aider à nous améliorer. Et merci parce que chaque jour nous sommes en progrès. Et ce que nous faisons aujourd'hui, nous le ferons mieux demain. Parce que tu agis en nous par ta parole. Apprends-nous à nous respecter, à reconnaître la valeur de notre vie devant Dieu. Apprends-nous à être miséricordieux, compatissants, calmes, paisibles. Apprends-nous la valeur de la retenue, du silence, de la tranquillité. Apprends-nous à ne pas juger ceux qui font des tout petits pas et ceux qui ne savent pas s'exprimer et ceux qui ne font pas de bruit dans l'Église. Nous voulons aimer toute l'Église comme tu l'aimes, car tu la travailles, tu agis en elle. Nous ne voulons pas critiquer ceux qui sont comme en captivité. Et nous ne voulons pas critiquer non plus ceux qui semblent très heureux. Nous voulons simplement que tu mettes un collier sur nos yeux et que tu nous apprennes la vie chrétienne et que tu nous apprennes qui est le Christ et ce qu'il fait. Amen.